nos propres méthodes de communication sont plus mentales que verbales. D'où la voix que vous entendez actuellement qui est totalement mécanique.
Salut les gens, voici les clitos du mois de mai avec Juliette Glitch et moi-même Bikini Kill. On est sur Radio Campus Orléans. C'est le temps des cerises et des premiers rayons de soleil et ça nous donne bien envie de ressortir de nos caves, nos vélos pour rouler le nez au vent dans nos vertes campagnes. Allez, toutes et tous à bicyclette, c'est bon pour la santé et la planète. Toutes ? Vraiment ? Eh bien, pas si sûr. Derrière une image vertueuse, les choses se compliquent encore une fois quand on chausse les lunettes de genre, comme on dit par chez nous, et qu'on parle petite roue. Petite roue. Femmes et hommes sont-ils égaux à vélo ? Le vélo a-t-il un genre ? Plus globalement, accédons-nous tous à un espace public égalitaire ? Le géographe Yves Rébaud a réalisé en 2018 une enquête très fouillée pour Bordeaux Métropole. Avec son équipe de chercheuses et chercheurs, il a observé et quantifié les pratiques sur le terrain. Il a interrogé plus de 1600 personnes sur leur représentation et ce qu'elles disent de leur pratique du vélo. Alors, quel constat ? Eh bien, comme ailleurs en France, les femmes sont moins représentées parmi les cyclistes, malgré une augmentation globale du trafic vélo. Les pédaleuses sont surtout des femmes jeunes appartenant aux classes moyennes et supérieures. Et les autres ? Eh bien, il semble que la naissance d'un enfant pousse souvent les femmes à raccrocher le vélo. Et quand ce n'est pas le cas, elles pointent le fait d'être toujours plus chargées que les hommes, car oh, ce sont elles qui le plus souvent accompagnent leurs enfants à l'école et aux activités. L'injonction à la coquetterie qui est faite à nombre de femmes fait aussi dérailler les deux roues. Parce que les jupes, les talons, les coiffures nickel, le maquillage, qui font implicitement partie d'une tenue professionnelle pour beaucoup de femmes, sont peu compatibles avec la pratique du vélo, faute de vestiaires ou d'équipements adaptés sur les lieux de travail. Certaines femmes, et cette fois-ci de tous âges, évoquent aussi leur manque d'aisance et leur crainte de tomber ou de se faire renverser. D'autres l'embarras que représenterait la panne, le déraillement, la crevaison. Les femmes interrogées se sentent aussi, évidemment, ça ne vous étonnera pas, en insécurité la nuit, on en reparlera, et sont victimes davantage d'incivilité, pardon, de comportements sexistes et d'agressions en général. Bref, on le voit, cette enquête montre bien qu'il reste de la piste cyclable à parcourir pour atteindre l'égalité dans les pratiques cyclistes. Alors, comment faire ? Quelles solutions, quelles actions pour des pratiques vraiment inclusives ? Et bien pour en discuter aujourd'hui, on reçoit Françoise Bégout, bonjour.
Bonjour.
Du collectif Orléanais Vélorussion, qui va nous partager sa propre expérience, sa réflexion, et qui milite actuellement pour un collectif, pour la création d'un collectif local pour que le vélo roule enfin pour tous. Elle est aussi l'autrice, elle nous en parlera de chroniques hebdomadaires, je crois, sur France Bleu Orléans. Alors, bonjour Françoise. Que penses-tu de mon édito ?
Alors, très intéressant. Là, il y a quand même eu une petite différence, c'est que tes chiffres reviennent de 2018. Il y a eu quand même des...
Avant le Covid ?
Oui, avant le Covid, il y a eu une espèce d'évolution. On voit quand même qu'il y a des choses qui bougent. Donc là, je pense que... C'est un peu à revoir. On voit de plus en plus de vélos aussi qui sont plus adaptés à des déplacements avec les enfants. Donc là, on se retrouve avec des changements de comportement. Mais on est loin de ce que ça devrait être, ça c'est sûr. Et particulièrement pour que les femmes se sentent à l'aise sur un vélo.
Oui, alors c'est des chiffres, c'est vrai, qui datent d'avant Covid. Ceci dit, j'en ai repéré quelques autres. C'est peut-être sur les usages, c'est-à-dire qu'on a davantage de femmes cyclistes dans les zones urbaines, et c'est un peu notre sujet aujourd'hui, et qui utilisent le vélo comme un utilitaire, on va dire, un moyen de déplacement. hein, alors que on retrouve beaucoup plus d'hommes, et là c'est très majoritaire, dans une pratique, on va dire, plus sportive du vélo et plus de loisirs. Est-ce que ça, c'est...
Oui,
ça
te semble... on a un grand phénomène de vélo-taffeurs, c'est-à-dire ceux qui vont travailler, voilà. Donc il y a un comportement qui est complètement différent. Ça, c'est surtout aussi parce que les infrastructures ne sont pas du tout aussi prêtes à faire ce genre de choses. Pour avoir questionné plusieurs femmes par rapport à leur pratique de vélo, on doit reconnaître que monter sur un vélo pour aller au travail, comme tu l'as déjà dit, c'est très compliqué. C'est compliqué pourquoi ? Parce qu'il y a des courses à faire en rentrant, parce qu'il n'y a pas le casier qui permet de se dévêtir, de se changer en arrivant, parce que la piste cyclable n'est pas... Enfin, quand on a des pistes cyclables, on parle d'Orléans, donc on n'a pas de piste cyclable, on va dire, c'est tout simple. Donc quand on a, disons, des pictos par terre, c'est jamais assez large pour qu'on puisse être à l'aise. Donc le problème d'être à l'aise sur un déplacement en vélo, c'est vraiment pas pour des enfants, c'est pas pour des personnes plus âgées, c'est pas pour des femmes.
Tout à fait, c'est pas inclusif.
Non, voilà, c'est ça, c'est le terme.
Donc là, tu nous as donné quelques données un petit peu sur Orléans, parce que c'est vrai que moi, j'ai cherché des chiffres sur Orléans, et j'en ai guère trouvé. Toi, tu as mené ta petite enquête personnelle pour savoir un peu quels étaient les usages.
Alors, par rapport aux usages des femmes, en ouais. général, voilà, c'est ça. C'est vrai que pour faire mes chroniques du mois de mars, j'ai eu envie, disons, de questionner, en prenant mon répertoire un petit peu, et de savoir un petit peu ce qui les empêchait de faire du vélo, ce qui leur faisait plaisir de monter sur un vélo. Donc, il y avait tout ça. Donc, c'est vrai, dans les grands empêchements, c'est tout à fait ce que j'ai dit, hein. Et puis bon, il y a les aménagements, mais il y a aussi, tu reparleras de l'éclairage public, tous ces facteurs stressants, et puis aussi les comportements d'automobilistes.
Voilà, c'est là-dessus que je voulais revenir. Est-ce que, par exemple, toi, tu as eu des retours, peut-être, là, j'ai parlé dans l'édito, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé, un sentiment d'insécurité ressenti davantage par les cyclistes femmes à Bordeaux, mais bon, je pense à peu près partout. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce qu'on pourrait penser que ce sentiment d'insécurité, il est peut-être amoindri quand on est à vélo plutôt que quand on est piétonne. Et un des enseignements de l'étude que je citais, c'est que visiblement, ce n'est pas le cas. Le sentiment d'insécurité est le même. Est-ce que toi, tu as retrouvé à peu près les mêmes choses ?
Alors, c'est très ambigu parce que ça dépend un petit peu de chaque femme, hein, ou de chaque jeune fille. Ou, voilà. Parce qu'il y en a qui se disent, moi, quand je rentre le soir, je préfère être à vélo parce que je vais plus vite. Donc c'est ambigu. C'est pas pour ça que vous ne pouvez pas avoir de problème. Moi, j'ai eu la frayeur de ma vie lorsqu'on m'a envoyé à minuit une canette de bière à travers la figure, et ça m'a fait vraiment très très peur, parce que j'étais toute seule, parce que j'étais dans un endroit peu fréquenté. Donc c'était facile de faire ce genre de choses. Donc ce sentiment, il est propre à chacune. On peut avoir cette terreur de monter sur un vélo en plein jour. Oui. C'est évident. Et il y en a beaucoup qui me disent, oh, bah, qu'est-ce que tu es courageuse. Bon, après, c'est une attitude. Il faut avoir une attitude, il faut avoir une habitude, il faut savoir. Mais on n'est pas à l'abri de connards. Parce qu'en général, on nous traite de connards, oui, de cyclistes, de connasses. Et là, je ne vous dis pas, il y en a pire. Il y a pire, des gros mots. Voilà. Donc, on gêne. De toute façon, le cycliste, homme-femme, gêne. Oui. Donc, dans le déplacement. Et Orléans et la métropole, c'est quand même un peu la métropole de la voiture. Quand on regarde une requalification de rue, on va plutôt prioriser le stationnement ou le riverain qui va avoir sa voiture et son entrée de garage, plutôt que le piéton avec un trottoir à haut norme ou le passage cyclable correct. Ce qui voudrait dire quand même à ce que les rues soient, les plans de circulation soient réfléchis aussi pour avoir des sens uniques. Quelquefois, on ne peut pas faire une grande route. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Et l'écoute métropole, on va dire en général, de nos élus n'est pas tellement pour le vélo, pour, et je dirais même quelquefois les femmes, parce qu'on se demande vraiment pourquoi elles s'acharnent à vouloir de l'éclairage à n'importe quelle heure.
On piquera notre coup de gueule tout à l'heure, on va vraiment le piquer.
Non, mais il faut le redire plusieurs fois. Ouais, de toute façon.
Et donc là, on entend quand même que tu as des aspirations militantes. Ouh là là, on a parlé du collectif Vélorussion. Tout à l'heure, enfin non, en introduction. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que donc on a parlé des femmes cyclistes, et moi j'ai envie de savoir, mais quelle est la place des femmes aussi militantes pour, par exemple, qu'il y ait davantage de pistes cyclables. Donc, je pense par exemple au collectif Vélorussion qui organise régulièrement des actions sur Orléans. Est-ce qu'on a aussi dans les associations peut-être de plus en plus de femmes qui pourraient, et de minorités de genre d'ailleurs, et qui pourraient aussi apporter davantage cette voix-là que l'on entend ce matin?
Non, c'est mon grand désespoir. C'est mon grand désespoir parce que justement, depuis que le collectif Vélorussion existe, et on a donc un petit groupe qui réfléchit, qui intervient auprès des élus, des aménageurs, justement pour donner une expertise. Et je suis, pour le collectif Vélorussion, la seule femme. Il y a une autre association qui a deux femmes. C'est très peu, je trouve, pour montrer un petit peu une voie différente. Par contre, je dois reconnaître que c'est quand même des gens, les cyclistes qui sont présents dans ces collectifs, sont très, sont très attentifs à ma parole et je pense à la parole des autres. Justement, à ce propos, la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est, disons, la fédération nationale, s'intéresse à ce sujet, parce que, justement, c'est un peu ce qui est reporté, qui est ramené de toutes les régions, c'est qu'il y a des femmes à vélo, mais il n'y a pas des femmes interlocutrice pour justement donner leur parole comme on pourrait l'avoir. Et quand on voit par exemple ce qui s'était passé, je crois que c'est à la ville de Grenoble, quand il y avait les élus qui avaient voulu faire des pistes cyclables inclusives, etc. Il y a eu un tollé, les femmes. Mais non, c'est pas les femmes, ce sont les gens qui veulent monter sur un vélo en toute sécurité.
Tout à fait. Je pense que c'est très important de le rappeler, ça. Voilà. Mais alors, quoi, il n'y aurait pas beaucoup de femmes dans les associations militantes? Mais c'est fou.
Pourquoi?
Alors, tu parles qu'il y a toujours un problème de prise de parole?
Ah bon?
Quelquefois.
Non, c'est pas
si,
vrai.
Il paraît. Alors, moi, je peux vous dire aussi, dans d'autres activités, je suis dans une structure très, très étatique, enfin non, institutionnelle, qui s'appelle le Conseil de développement de la métropole orléanaise.
Wow, d'accord.
Oui, voilà, c'est ça. Et je m'aperçois je fais partie de deux groupes de travail. Il y a un groupe, dans un groupe de travail, l'animateur, systématiquement, reprend ce que je viens de poser comme question.
Oh là là.
Comme si j'étais pas capable de dire correctement du premier coup.
Mansplaining.
Et alors, je sais pas, je suis peut-être, mais j'arrive pas à lui dire. Attendez,
ta gueule.
C'est un peu con.
Soyons simples.
Mais il est condescendant vis-à-vis de moi et c'est insupportable. Et alors, on ne nous sommes que deux.
J'avais demandé si tu étais la seule femme. Est-ce qu'il reprend l'autre femme aussi ou...
Elle est un peu plus timide que moi.
D'accord. Voilà.
Mais on se regarde. On essayait de donner du courage.
D'accord. Autre chose que je trouve intéressant aussi, alors on n'a pas beaucoup creusé. On a dit, il y a peut-être certainement la peur de monter sur le vélo, mais est-ce qu'il n'y a pas la peur physique? En d'autres termes, est-ce que les garçons ne seraient pas dès l'enfance socialisés au risque et donc au risque physique que pourrait signifier le fait d'apprendre à faire du vélo? Je pense qu'on a tous souvenir quand même, gamin, gamine aussi, de quand on monte sur un vélo, et c'est un peu la flippette. Est-ce que cette socialisation-là, dans nos familles, en tant qu'enfants, n'a pas des répercussions sur après l'usage de nos vélos et pourrait expliquer que certaines femmes se sentent en insécurité, mais presque physique, je dirais, et auraient besoin peut-être de cours de vélo ou de se sentir en sécurité, de savoir, de reprendre la pédale. Quoi.
Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a le phénomène de l'éducation hein, qui fait qu'il y a une éducation un peu quelquefois genrée. On est une fille ou on est un garçon, ça c'est sûr. Les parents ont quelquefois plus peur. Donc il y a ça. Il y a aussi le comportement masculin et le comportement féminin qui fait que la prise de risque, en règle générale, elle est moins importante chez les femmes. D'ailleurs, et tant mieux, parce que de toute façon, il y a moins de tués en femmes qu'en mecs. Donc ça, c'est déjà pas mal. Hein.
Puis il faut être sûr de la sécurité.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres de l'accidentologie, on a une forte proportion d'hommes, que ça soit piétons, automobilistes ou cyclistes, plutôt que de femmes. Donc il y a ce comportement plus prudent entre guillemets hein, qui fait que ce genre de choses. Par contre, au niveau disons de l'autonomie, gagner l'autonomie en faisant un apprentissage de vélo, il y a juste une association sur Orléans qui s'en occupe, c'est Respire, qui a une vélo-école, qui s'adresse donc à des femmes qui ont besoin justement de se déplacer de façon plus à l'aise. Mais ça entraîne plutôt, enfin ça va plutôt sur des personnes qui sont plus en difficulté économique ou disons d'intégration, etc. Comme ça. Par contre, je pense qu'il faudrait trouver le moyen d'avoir plus de pouvoir pour justement faire un tutorat ou aider. Il y a une association à Saint-Hilaire qui s'en occupe, qui fait justement un accompagnement sur Saint-Hilaire, simplement. Okay. Donc, c'est une association locale qui s'occupe de ça. Ça demande beaucoup d'investissement.
Bien sûr.
Et on est tous avec multi-casquettes, donc à droite et à gauche, qui font qu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup, d'un seul. Mais ça, l'apprentissage vélo, qui est aussi un apprentissage important, puisqu'il l'aide à être de meilleurs automobilistes après.
Oui.
Voilà. Donc, prendre en compte l'espace public, ça passe aussi par le vélo.
Donc, on a dit des ateliers pour reprendre confiance à vélo. On a dit des vraies pistes cyclables sur Orléans. Orléans, tu m'entends ? voilà. Des vraies réflexions concertées avec les premières concernées. Voilà, je pense que là, j'ai peut-être fait un petit peu le tour de tes préconisations, de ce que tu espères, de ce qu'on pourrait attendre.
Il y a aussi un travail sur l'autoréparation aussi qui est important, puisque sur Interaction, alors j'avais une jeune femme qui devait venir aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir, qui justement est adhérente et bénévole à Interaction et qui organise, disons, des ateliers de réparation pour les femmes. Parce que là aussi, alors moi, je dois vous le dire, c'est vraiment quelque chose qui me rebute. Parce que changer un pneu, etc. Donc, j'ai pris des pneus increvables. Donc, déjà, d'une, c'est bien. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie. Donc, si on est aidé, c'est quand même vachement important.
Oui, puis, pardon, je me permets de rebondir, mais même avec d'autres femmes, enfin, je sais que par exemple, dans la ville où j'étais avant, il y avait des clubs comme ça qui faisaient de l'aide, de l'assistance à la réparation, mais c'était à 95%, et encore, je suis sympa, des hommes. Et c'est vrai qu'il y a tout de suite un truc où quand j'arrivais, tous les mecs venaient m'aider, m'expliquer comment faire. Enfin, il y a tout de suite un truc où j'étais genre la petite meuf dans le club, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un peu le truc où même moi, je me sentais bête, du coup, et je me permettais pas d'essayer des trucs. Enfin, alors que quand j'ai fait ça avec des amis, enfin, des copines et tout, ça se passait beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que des fois, d'apprendre dans des groupes comme ça où il n'y a pas de paternalisme, pas de trucs un peu surplombants, ça peut aider de prendre, d'apprendre.
C'est celui qui sait. Oui, c'est voilà, toujours, c'est ça. C'est celui qui sait. Alors qu'une femme, même si elle sait, elle sera dans le partage quelquefois plus facilement. Je pense. Moi, j'en suis même persuadée, d'ailleurs.
Merci pour tout ça. On va continuer avec toi tout au long de cette émission, Françoise. Juste avant, peut-être qu'on écoute ton morceau que tu as choisi. Tes chroniques, on les retrouve sur France Bleu Orléans, tes chroniques vélo.
Oui. C'est ça. Alors, c'est le vélo pour tous. Donc on retrouve ça en podcast sans aucun problème.
Tu vas changer le titre bientôt, tu vas dire le vélo pour tous.
Oui, peut-être que l'année prochaine, mais je ne sais pas si je vais être...
France Bleu Orléans, tu nous entends. Ici Radio Campus.
C'est bien, ils adorent la publicité, ils en ont besoin.
Je ne sais pas. D'accord, donc on retrouve tes chroniques. Oui. Donc le vélo pour tous à podcaster, j'imagine.
Oui.
Voilà. Et puis surtout, on vous conseille celle de Mars. Les autres sont intéressantes, moi je les ai écoutées. C'est des petites pastilles qui sont très bien faites.
Moi j'aime bien celle du 1er avril, mais bon, c'était parce que elle était rigolote.
Je m'en souviens plus, mais ne spoile pas, on découvrira. Ton choix musical, Françoise ?
Alors, c'est une jeune femme qui s'appelle Lucienne Renaudin-Vary. Et moi, je l'ai découvert dans une émission de télévision, de radio d'ailleurs, parce que je la regardais en vidéo. Et elle est trompettiste, elle a 24 ans, et moi, je trouve ça extraordinaire, en fin de compte, de s'être emparée d'un instrument très masculin. Mmh. Et elle est reconnue par tous et toutes. J'espère, mais tout parce que c'est le jazz, parce que c'est le classique, et là, ça sera donc le temps des cerises, paraît-il, qui va réconcilier tout le monde, des jeunes et des vieux.
On écoute.
dans la même perspective que notre invitée présente avec nous aujourd'hui, des clubs de sport s'organisent en non-mixité pour se réapproprier la pratique sportive et l'espace public. C'est notamment le cas à Rennes, où Vicky a fondé un club de course à pied en non-mixité, c'est-à-dire sans mec cisgenre. Le club s'appelle Run Vénère et va fêter en août sa première année d'existence. J'ai donc rencontré Vicky pour qu'elle m'explique la genèse de ce club, ce qui l'a motivée à s'organiser en non-mixité.
Je fais de la course à pied depuis quelques années et je me suis motivée il y a un moment à courir un semi-marathon, objectif que je n'ai jamais atteint, notamment parce que j'ai remarqué qu'en faisant des programmes d'entraînement, qu'il y avait toujours un moment en fait, où j'arrêtais de courir. Et ça coïncidait avec l'hiver. Et pendant un sacré bout de temps, j'ai pensé que juste j'avais la flemme de courir l'hiver parce que l'hiver, quoi, il fait froid, il fait pas beau et la flemme. Et en fait, un jour, je me suis juste aperçue, j'ai fait une corrélation entre le fait que j'avais peur de rentrer chez moi toute seule le soir et aussi, du coup, que j'avais peur d'aller courir le soir toute seule. Puisqu'en fait, les chemins que j'emprunte pour aller courir, ils sont peu pas éclairés, peu pas fréquentés. Et ça, je m'en suis aperçue, puisque un hiver, j'ai pris ma détermination, je suis allée courir un soir, et j'ai fait à peine 200 mètres que j'ai eu la plus grande peur de ma vie, et je suis rentrée très très vite chez moi. Et donc en fait, avec la nuit qui tombe plus tôt, c'est beaucoup plus difficile de trouver des créneaux en sortant du travail pour aller courir. Et bon, j'ai mis du temps à comprendre, mais à force de lecture, qu'il y avait un lien entre genre, espace public et insécurité aussi dans l'espace public. Et donc, j'ai voulu trouver un club de course à pied pour pouvoir courir avec des gens et ne plus avoir peur le soir. Et en fait, j'ai trouvé que des clubs en mixité. Et le peu de fois où j'ai couru en mixité, ça n'a pas été des expériences super, parce que je n'avais pas du tout aimé l'ambiance, en fait, avec les hommes qui ont la facilité de nous encourager, alors que je ressens pas vraiment le besoin d'être encouragée, surtout quand j'ai pas l'impression d'avoir un niveau plus bas ou plus haut. Et aussi, à la question du niveau, en fait, j'avais pas envie de trouver un club où il y avait une question de performance, forcément. J'avais juste envie d'être avec des gens et de courir et de me sentir bien. Donc, en fait, clairement, j'ai pas trouvé un club qui me satisfaisait ou un groupe qui me satisfaisait. Du coup, je me suis dit que j'allais créer mon propre club où j'ai choisi en fait de l'affirmer féministe et en non-mixité pour que un peu le message soit clair et trouver des personnes qui soient assez en corrélation avec mes idées. Et jusque-là, ça a plutôt bien marché.
Et pour Vicky et les personnes qui la rejoignent, les apports d'une organisation en non-mixité sont nombreux.
Que moi, j'avais peu d'exemples, en tout cas, de femmes qui couraient seules dans la rue le soir et qui me donnaient envie de le faire. Et je me suis dit que peut-être on pouvait créer une dynamique de groupe où, à force de se montrer dans la rue, ça allait motiver d'autres femmes à le faire. Et aussi parce que le sport, c'est clairement une source d'empouvoirement. Et je voulais essayer aussi de créer un outil pour prendre plus de place dans la rue. Alors forcément, en l'affirmant féministe, c'est des questions qui ont été très vite comprises par les personnes qui ont souhaité rejoindre le groupe. Forcément, quand on court, toujours quand des personnes nous rejoignent, en fait, ça fait vraiment cet effet-là où on en parle beaucoup sur nos expériences, nos ressentis, ce qu'on pense, ce qu'on a appris aussi. Et forcément, oui, ça crée une petite culture féministe parce que déjà, en fait, c'est des valeurs qu'on partage. En tout cas, sur toutes les personnes qui ont rejoint Run Vénère pour le moment, on est toutes à peu près sur la même longueur d'onde. On n'est pas forcément, je sais pas comment dire ça, c'est pas sur le même niveau d'éducation, mais on est à des niveaux différents sur la façon dont on vit notre féminisme et aussi clairement notre misandrie, parce que moi j'assume clairement ma misandrie au sein de ce groupe. Mais c'est aussi, du coup, on se donne des clés, des points de réflexion, des éléments aussi pour avancer, pour avoir moins peur dans la rue, pour se questionner d'une autre manière sur un sujet. C'est clairement devenu un espace d'échange parce qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint le groupe de Run Vénère, mais qui ne viennent pas courir. Et du coup, en fait, c'est devenu une discussion où on se partage des infos, des événements, où on rebondit sur de l'actualité. Et c'est cool aussi, je trouve ça rigolo, cette dynamique. Il y a aussi pas mal de personnes qui ont rejoint le groupe et qui sont jamais venues courir, mais qui ont été... ont été intéressées par Run Vénère parce que voilà, elles n'avaient pas fait de sport depuis des années ou elles n'avaient jamais couru et elles veulent se lancer, mais elles ne veulent pas se lancer toutes seules. Du coup, c'est une opportunité pour elles. Enfin, voilà, ces personnes, elles voient ça comme un espace safe, et c'est ce que j'essaie de créer, donc je suis ravie que ça se prenne comme ça. Et même si elles ne viennent pas forcément courir avec nous, je trouve ça important de notifier, d'avoir la démarche, d'avoir envoyé un message pour rejoindre le groupe, d'avoir répondu à des messages, d'avoir essayé de venir à des sessions, de n'être pas venue. Peut-être que c'est des personnes qui ont essayé d'habiter l'espace public avant et qui n'ont pas réussi et qui, du coup, y voient une nouvelle opportunité. Je me suis un peu inspirée des marches exploratoires, qui est un réel procédé scientifique que moi, je fais complètement à l'arrache. Hein. Mais normalement, c'est pour étudier l'espace public. C'est souvent utilisé avec les personnes âgées aussi sur pourquoi elles n'arrivent pas à habiter l'espace public. Et du coup, il y a des personnes qui les suivent sur un parcours qu'elles connaissent et sur un parcours qu'elles ne connaissent pas, et pour voir quels sont leurs freins et comment, en fait, juste enlever ces freins. Du coup, généralement, par exemple, les villes, elles rajoutent des éclairages ou ce genre de trucs. Bah, avec Runvener, c'est un peu pareil. On essaie d'aller sur des chemins que les unes et les autres, on connaît ou on ne connaît pas, et d'aller voir ensemble, en fait, parce que toute seule... Enfin, par exemple, il y a plein de chemins que toute seule, j'aurais pas fait parce que je sais pas à quoi ça ressemble le soir et j'aurais eu trop peur. Et maintenant, en fait, je sais que entre telle heure, c'est hyper fréquenté, que c'est illuminé ou que justement il n'y a pas de lumière. Donc je sais que toute seule, je n'irai pas, mais en groupe, on y va, on est avec nos lampes frontales et en plus, c'est assez rigolo. Donc voilà, ça aide aussi à dépasser ses peurs, parce que même quand on est en groupe, moi je sais que j'ai une peur bleue de passer sous les ponts le soir. Et à Rennes, il y a quand même pas mal de ponts. Et même quand on est en groupe, des fois, je sens que j'ai un petit frein dans mon corps là, qui me dit qu'il faut un peu paniquer. Et le fait qu'on le fasse en groupe, et je l'ai fait plusieurs fois. Et je ne dis pas que je le ferai toute seule, mais maintenant, c'est une espèce de peur que je débloque petit à petit. Donc forcément, c'est un espace d'échange, de discussion pour aussi relater nos expériences. On n'a pas besoin de s'expliquer en fait sur pourquoi on ressent des choses. C'est naturel et en fait on a même des on se relate pas vraiment nos expériences parce qu'on sait. On sait pourquoi on a peur dans la rue. On imagine quels pourraient être les freins. Du coup c'est un espace libre quoi. On n'a pas besoin de se justifier et ça c'est trop bien.
Et pour Vicky, il y a un avantage non négligeable à courir entre meufs.
Bah, en fait ça a l'avantage qu'on n'a pas besoin de faire de pédagogie puisque en fait on est entre minorités de genre et qu'on a toutes et tous plus ou moins vécu les mêmes expériences ou entendu ou vu. Enfin, en fait, on sait. Donc, on peut juste vivre tranquille sans savoir justifier. Alors que c'est vrai que quand je parle de Runvener avec des hommes, il faut toujours que j'ai un petit laïus sur pourquoi il y a des inégalités de genre dans la rue parce qu'eux-mêmes ne s'en rendent pas forcément compte. Et c'est pas vraiment de la pédagogie qui prend du temps et de l'énergie... quand je l'explique comme ça, mais c'est juste qu'à force de le faire de manière répétée, c'est fatigant. Et au moins, Runvener, c'est cet espace où on n'a pas besoin d'utiliser... Cette énergie, en fait, on l'utilise pour le sport, tout simplement. Et ça fait du bien.
J'ai aussi interrogé Vicky sur ce que suscitait la non-mixité, si elle avait eu des détracteurs. Et donc, si des personnes, principalement des hommes, ont pu manifester des interrogations ou être sceptiques, Vicky a une réponse très simple et très claire.
Voilà, c'est souvent des hommes qui m'ont dit « Ah mais oui, mais t'as pas peur de fermer des portes à des personnes qui voudraient courir avec vous mais qui ne sont pas féministes ?» Et en fait, ce à quoi je réponds, c'est que c'est pas un club fait pour elles de la même manière que moi, j'ai pas envie d'aller courir en mixité en fait. La non-mixité, elle est souvent critiquée comme étant quelque chose d'excluant, et moi je défends ça plutôt en... C'est juste que je crée un espace supplémentaire qui peut correspondre à d'autres personnes qui ne trouvent pas leur place dans d'autres espaces. Pour moi, c'est pas opposé, en fait, c'est complémentaire. Et aussi, ces espaces-là, ils permettent, je pense, aussi de pouvoir un peu prendre de respirer, prendre des forces pour pouvoir justement être dans des espaces en mixité de manière plus sereine.
Pour conclure, avant de conclure, j'ai demandé à Vicky ce que courir en féministe pouvait signifier pour elle.
J'ai vraiment voulu créer un espace, un club de course à pied où le sport, c'est vraiment une source de... bien-être et de pouvoir se donner du pouvoir et non tourner vers la culture du régime parce que courir c'est bon pour la santé et faire du sport en général c'est bon pour la santé et le problème c'est que je pense qu'en tant que femme surtout on nous apprend que faire du sport ça sert à perdre du poids et à galber son corps pour correspondre en fait au male gaze alors qu'en fait par exemple moi j'ai envie de me sentir hyper puissante pour juste porter des trucs et être en bonne santé et conquérir le monde, tout simplement. Dans Run Vénère, il y a vraiment des niveaux divers et variés. Il y a des personnes qui courent déjà, il y a des personnes qui n'ont jamais couru, des personnes qui courent régulièrement, il y a des personnes qui courent de manière occasionnelle. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font d'autres sports, d'autres pas du tout. Du coup, dans les groupes, on est mélangés. Donc l'idée, c'est de trouver un peu une moyenne, quoi. L'idée, c'est de trouver un temps ensemble qui puisse nous faire du bien. Donc généralement, on a une discussion Facebook, on essaie de trouver un jour et une heure qui correspond. Par exemple, il y a une session qui tient la route depuis le début, on a une session du mardi soir, c'est la plus régulière. Après, ça va être des sessions ponctuelles sur d'autres jours, selon les emplois du temps. Du coup, on essaie de trouver l'heure qui arrange tout le monde. Pour le lieu, c'est pareil. En fait, l'idée, c'est que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui aient à se déplacer. Par exemple, le plus simple, par exemple, c'est de courir en centre-ville, parce que quasi tout le monde habite en centre-ville, mais du coup, c'est pas juste pour les personnes qui doivent se déplacer en métro ou en vélo ou à pied, notamment l'hiver et qui fait nuit. Donc, ce soit pas aux mêmes personnes de traverser cette angoisse de rentrer toute seule le soir. On essaie de se donner rendez-vous à des points de métro, par exemple. Et puis, l'idée, c'est aussi d'explorer le plus de villes possible. Et du coup, c'est aussi hyper important, je trouve, d'aller dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller, où on n'irait pas parce qu'on est toute seule. Je pense que c'est aussi ce qui est chouette avec le sport, c'est pouvoir... c'est sortir de son quotidien aussi, même si bah, du coup, ça devient une pratique quotidienne, mais c'est de voir d'autres choses, c'est de tester d'autres choses, c'est un peu se dépasser, que ce soit vraiment sur le terrain géographique que sur son énergie et son corps. Enfin, c'est cool après une séance quand on se sent hyper puissante. Et d'ailleurs, je me souviens, la première séance... je crois qu'on était 6-7, et ce que toutes les personnes qui étaient là m'ont dit, c'est « Ah, je pensais pas que j'étais capable de courir autant ou d'aller aussi loin. » Nous, notre rythme de croisière, c'est pouvoir parler en courant. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse parler en courant. Et puis, il n'y a pas ce truc de quand on court en groupe, il y en a 2-3 qui vont à fond les ballons devant et il y en a qui restent derrière. Il y a vraiment un truc hyper bienveillant où tout le monde s'attend. Des fois, il y en a qui courent plus vite, donc elles attendent à un croisement. Et puis, quand il y en a qui veulent marcher, on marche. Et puis, après, on reprend. L'idée, c'est vraiment un truc à faire ensemble sur pratiquer le sport. Et je pense que, en fait, les personnes qui aiment le sport ont envie de partager les bonnes sensations qu'elles ressentent. Et les personnes qui se mettent au sport, en fait, ont envie, du coup, de les découvrir. Du coup, c'est ça, courir féministe. C'est courir pour être puissante et... Et après, comme ça, on pourra renverser le patriarcat parce qu'on aura plein de force.
Voilà, merci beaucoup à Vicky qui m'a accordé donc du temps pour me parler de Run Vénère. Et pour cette conclusion que je trouve très pertinente, Françoise, est-ce que ce que raconte Vicky, ça t'évoque un peu peut-être ta propre expérience, l'appréhension du vélo ?
Alors, moi, j'ai cheminé depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'au départ, je ne trouvais pas normal qu'on soit obligé de se mettre ensemble. Entre femmes pour justement avoir notre place. Donc j'ai plutôt, alors par exemple j'ai été beaucoup dans l'agriculture, c'est aussi un domaine où c'est vraiment les hommes qui ont le pouvoir. Et puis, je dois reconnaître que là maintenant je me dis, pour faire venir des femmes à certains endroits, il faut vraiment. Et donc il y a des endroits où il y a des vélorussions qui sont que féminines.
Mais oui.
Voilà. Donc tout à vélo, s'il vous plaît, mesdames.
Donc voilà, je remercie à nouveau Vicky pour son temps qu'elle m'a accordé. Si des Rennaises nous écoutent, enfin des Rennaises du coup nous écoutent, ou des curieuses, veulent regarder, c'est sur Instagram que ça se passe et ça s'appelle Run Vénère, donc Run R-U-N et plus loin VNR. J'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme celle-ci qui vont fleurir un peu partout. Comme
et
ça,
à Orléans.
Et Orléans.
Et contactez-nous s'il y en a, si ça existe.
Moi, je cherche à courir entre meufs, donc contactez-moi, contactez-nous. Et comme ça, on aura de plus en plus de sportives ou non sportives qui inonderont les rues.
Tout à fait.
J'espère vraiment. Donc, en attendant, je vais vous laisser avec un peu de musique. Donc, pareil, c'est une recommandation que m'a faite Vicky. Elle m'a recommandé le groupe Wet Leg et on va écouter Daisy.
I'm a king, bow down and kiss on the ring. It's gonna hurt, it'll sting. as a bruise. Only trust a fellow for some light amusement. I am no prey, but I have pursued. Pray for me, none on the judge's pews. No distraction can confuse me. Whiskey and it was nothing pretty. Fuck up, princess, I'm a king. Bow down and kiss on the ring. Being a bitch is my king. What the fuck else did you think? Fuck up, princess, I'm a king. Bow down and kiss on the ring. It's gonna hurt to go slow. I'm crazy about your lifespan. I like bad things on your nightstand. You're the fucking dust in my moonlight. True eyes, great with the blue eyes. I'm terrified, I'm crazy about your lifespan. I like bad things on your nightstand. You're the fucking dust in my moonlight. True eyes, great with the blue eyes.
Merci Juliette pour ces découvertes, pour cette interview de Vicky qui était fort intéressante. Et Vicky, mais comme Françoise d'ailleurs, ont noté que quand même, pour créer un sentiment de sécurité, ce qui est important, c'est l'éclairage public, que c'est quand même quelque chose qui est non négligeable. Alors c'est l'heure du coup de gueule, d'accord ?
C'est l'heure où on s'énerve.
Voilà, c'est l'heure où on s'énerve. Déjà, on était un petit peu vénère, je crois, quand même, toutes. Quand face à la crise énergétique, la ville d'Orléans a pris la décision de plonger pas mal de rues d'Orléans dans le noir à partir de minuit. Alors, on a tout opté, je pense, pour des stratégies de contournement. On a retrouvé nos bonnes vieilles habitudes, des écouteurs dans les oreilles pour faire croire que, ouais, genre, on est en conversation avec quelqu'un. Soit des stratégies d'évitement du type « je sors pas » ou alors « on sort à plein » ou alors je tanne le vieux pote pour qu'il me raccompagne. Franchement, on avait dépassé ça. Alors, tenez-vous bien. Ça, déjà, c'était pas terrible. Sauf que maintenant, ça va être pire, puisque à partir du mercredi 16 mai, ces zones de la ville d'Orléans, qui étaient aujourd'hui éclairées seulement jusqu'à minuit, elles ne le seront plus du tout. Voilà. Donc, on est toujours dans la même idée. Il y a une crise énergétique. Et la solution qu'on nous trouve, c'est finalement, mesdames et toutes les minorités de genre qui sont... vulnérable aussi par rapport à toutes les violences et les agressions dans la rue, c'est finalement on s'en fout. C'est le message qu'on nous envoie. Vous en pensez quoi, vous, autour de ces micros ? Est-ce que vous êtes énervée aussi, comme moi ?
Moi très fort, parce que de toute façon, on va laisser quand même la possibilité de prendre de l'essence en grande partie, et l'énergie, elle est là, hein, quoi. Donc voilà. Moi, je pense que on est en plus obligé de mettre des éclairages supplémentaires à nos vélos. Les rues sont dans un état épouvantable, donc on peut tomber sans aucun problème. Bon, moi, j'ai pas de portable suffisant pour m'éclairer en plus, donc voilà.
Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de la peur, de l'insécurité de genre, c'est vraiment le danger juste de faire du vélo de nuit, noir,
complètement.
Même pour les piétons. Hein.
Oui. On s'éclaire
avec
ce qu'on
disait tout à l'heure, c'est que c'est de l'hypocrisie, parce qu'en fait, la solution, c'est de prendre le vélo. Donc au bout d'un moment, faites en sorte qu'on puisse prendre nos vélos le soir toute sécurité.
Il faut faire des pistes cyclables déjà, des centres.
Oui, certes.
C'est vrai que la question des pistes cyclables, sur le truc de sécurité, je pense à ça, sur le fait de se faire attaquer, de se sentir en sécurité ou non, soit en vélo. Mais typiquement, à Orléans, il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont mélangées avec les piétons-piétonnes. Oui. Et donc en fait, pour se sentir en sécurité, c'est hyper compliqué.
Bon, alors, ça ne s'appelle pas des pistes cyclables. Il ne faut pas faire plaisir à M. Brouard. Ce ne sont pas des pistes cyclables. Ce sont des aménagements complètement anormaux, puisque on mélange les piétons, ça s'appelle des pistes vertes, on ne sait pas trop.
Ça s'appelle un truc pourri, quoi.
Ouais, c'est un échec.
Donc on est en conflit avec les piétons, parce que c'est ça. Pour pas qu'on soit en conflit avec les automobilistes, on nous met en conflit avec les piétons. Donc là, c'est un autre problème.
Bon, Orléans, on est donc très fâchés.
Métropole,
on est donc très fâchés. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, peut-être que ça s'organise. En tout cas, je vois de plus en plus de coups de gueule des copines à ce sujet. Et peut-être que, qu'on attend une initiative. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si il y a une pétition, s'il faut aller s'enchaîner sur le pont de Lampadaire. On n'hésitera pas à être là, à relayer l'information. En attendant, on va partager nos plans cul comme d'habitude. Françoise, on va te laisser la parole parce que tu as un plan cul à nous partager.
Ah oui, mais j'en ai plein. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, déjà, mon écrivaine favorite que j'aime beaucoup, celle de... Alors, après la trompettiste de 24 ans, moi, je vous prends une écrivaine de 84 ans. Voilà. Donc, Joyce Carol Oates, qui m'a fait mon premier coup de cœur avec Blonde, qui m'a justement montré que, Marilyn, elle n'était pas aussi conne que ça. Marilyn Monroe, elle n'était pas si conne que ça. C'était pas une Barbie. Elle avait quand même beaucoup de choses dans la tête. Et après, j'ai lu beaucoup de titres de cette écrivaine américaine.
Voilà. Ok. Merci, Juliette.
Oui, pardon. Moi, je recommande le livre. C'est une recommandation donc de Vicky que vous avez entendue tout à l'heure. C'est « Méfiez-vous des femmes qui marchent », un livre dans lequel donc l'autrice Annabelle Apps suit les aventures de femmes qui ont marché seules ou sans hommes. Donc c'est le cas par exemple de Georgia O'Keeffe ou de Simone de Beauvoir qui apparemment marchait vraiment beaucoup. Et donc elle fait toute une analyse politique de la question de la marche d'accord. et de la profession de l'espace.
Ah. Super intéressant. Merci, Glitch, c'est à toi.
Ouais, alors moi, je suis sur une série là, qui s'appelle Une équipe hors du commun, qui est sortie en 2022. Comme on a parlé de sport, en fait, c'est un reboot d'un film de 92 et c'est des femmes qui jouent au baseball. En 1943, il y a la première équipe professionnelle qui se monte aux États-Unis. Et en fait, le coach leur dit « Ah bon, bah, par contre, vous allez mettre des mini-jupes et faire les mignonnes sur le terrain. » Et elles sont là « Mais par contre, en fait, nous, on aimerait jouer, s'il vous plaît. » Et il y a donc des questions comme ça de posture professionnelle. Et il y a aussi une question de racisme parce qu'il y a une femme noire qui essaye d'entrer dans cette équipe. Et évidemment, on est en 43 aux États-Unis. Donc, ils lui disent « Bah non, chérie, va voir ailleurs. » Donc, c'est très, très intéressant. C'est très joli. Il y a plein d'histoires d'amour queer, c'est pas un spoil, mais c'est très cool. Et voilà, les femmes sont très belles, et c'est une série que des femmes, et ça fait du bien sur le sport, donc voilà.
Ok. Alors moi, ça va être un peu plus dense, on va dire. Non, c'était une de mes lectures là, qui vraiment est complètement dans ce dont on vient de parler aujourd'hui. Ça s'appelle « Ville féministe, note de terrain » et l'autrice, c'est Leslie Kern. Et c'est aux excellentes éditions du Remue Ménage. Alors, en fait, le constat de la question qui traverse ce livre, c'est à qui appartient la ville ? Vous l'aurez compris, elle n'appartient pas aux femmes. Et donc, l'autrice, elle rejoint le géographe du genre dont j'ai parlé au tout début dans cet édito, à savoir Yves Rébeau. La ville est faite par et pour les hommes, pour reprendre un titre d'un de ses ouvrages. Donc, l'autrice part de ce constat. Elle donne une analyse intersectionnelle, donc de genre, de classe, de race, sur les territoires de la ville. Et elle invite à redéfinir et à se réapproprier les espaces urbains. C'est un peu ce qu'on fait ce matin, aujourd'hui. Comment rendre nos villes plus féministes ? Donc, les différentes époques de la vie de Leslie Kern découpent de manière thématique les chapitres de l'essai. Donc, c'est-à-dire, il y a la ville des mères, la ville des amis, la ville en solo, la ville des manifestantes et la ville de la peur, dont on parlait tout à l'heure. Et cette géographe du genre, elle s'appuie sur à la fois des théories, des travaux de géographes, d'autres géographes féministes, pour évoquer la ville des possibilités, une ville plus inclusive dont on a cessé ici de parler. Elle se base aussi sur ses expériences de vie, des témoignages. Donc c'est à la fois très dense, très théorique, mais il y a aussi des choses très concrètes, des choses aussi assez drôles. Et voilà, je voulais vous donner cette petite référence qui date de 2022 pour aller un petit peu plus loin. Ça c'était tous nos plans cul et puis on va se retrouver. Alors Françoise, tu as justement pour aller un petit peu plus loin sur cette question du vélo inclusif, tu as une petite date à nous donner où on va te voir en vrai. Pour les gens qui veulent te voir en vrai, franchement, c'est incontournable.
Parce que je vais témoigner en tant que cycliste femme sur le quotidien. Donc, c'est mardi 17 mai à Olivet, dans la salle de l'Alliance. Donc ça doit être à 19h. C'est un documentaire, la projection d'un documentaire qui s'appelle Les Échappées. Et ce sont deux femmes qui, en 2021, sont parties sur un voyage de 3000 km et qui ont voulu rencontrer des femmes totalement différentes, que ça soit des cyclistes pros, mais que ça soit aussi des cyclistes au quotidien ou des mécaniciennes, parce que ça existe aussi, mesdames. Et donc des cadreuses, voilà. Et donc, avec tout âge. Et on peut retrouver ce témoignage dans le livre qu'elle a édité chez Tana Éditions, qui s'appelle « Guide du vélo au féminin ». Et c'est Louise Roussel qui l'a écrit. Donc, c'est super. C'est vraiment un livre, un guide qui est parsemé, disons, de reportages, mais aussi de guides, de fiches pratiques, et qui peut vous aider à monter sur un vélo sans aucun problème et sans peur.
Super. Alors, c'est un très beau livre. En plus, on voit l'objet. Et donc, évidemment, on redonnera la référence sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Les Clitoriciennes. Moi, je vous invite à un ciné-débat-rencontre également le 17 mai à 19h30 au Carme, dans le cadre du festival D'un bord à l'autre, avec un documentaire un peu choc. C'est le même soir ?
Oui.
Mince. Ensuite, je n'avais pas tilté, désolée. Moi, j'en parle quand même. Ça s'appelle « Guet-apens des crimes invisibles ». Et c'est donc une enquête sur les personnes piégeant les personnes homosexuelles et bi sur les sites de rencontres. Voilà. Bon, bah, deux salles, deux ambiances.
C'est pas la même
heure. Ça, ce sera le 17 mai. C'est à partir de 19h30. Glitch ?
Oui, alors moi j'ai choisi une autre date.
Ça a l'air très très bien.
Le vendredi 19 mai, je vais voir des comédiens très talentueux.
Des comédiennes.
Surtout des comédiennes très talentueuses, finalement. Pour voir un peu de théâtre forum à Féologe, et c'est 18h30. Et je vous fais le pitch rapidement. Les comédiens improvisent une scène sur le thème de la charge mentale et des relations hommes-femmes au sein du foyer. Le public est incité à envisager des alternatives et à remplacer un acteur.
Wow.
Donc voilà, ça va être super.
Ça a l'air trop bien.
Ouais. J'adore le théâtre forum.
Ouais, c'est vraiment super le théâtre forum, donc n'hésitez pas. Ça va être super.
Ok. Juliette, on te retrouve quelque part, toi ou pas ou
Oh
pas.
Non, bah je ne sors pas de chez moi.
Je ne sors pas, d'accord. Sinon, moi, je vous invite aussi le 25 mai à 18h30 à la médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il y a une rencontre qui va être super, je pense, avec Fatima Wassak, qui est une militante écoféministe un peu incontournable. Et je peux vous le dire comme ça, voilà, mais je pense que bientôt, on va avoir une petite interview d'elle en exclusivité pour les clitoriciennes. Waouh. Voilà pour les On se retrouve. Et on se retrouve bien sûr sur Radio Campus Orléans très prochainement. On a tout un tas d'émissions qu'on va vous faire découvrir au fur et à mesure. Vous pouvez nous retrouver notre actualité sur les réseaux sociaux. On se retrouvera très prochainement, peut-être même à partir de la semaine prochaine. Enfin, on vous redit tout ça, mais n'hésitez pas à nous suivre, à nous liker et tout ça, et tout ça. Merci à tout autour de la table, avec le grand plaisir de vous retrouver prochainement. Et Juliette, tu nous présentes notre morceau d'adieu.
Oui, c'est un titre de Tommy Genesis, ça s'appelle « A Woman is a God ». Put it down now, let me see the cash, put your ass out. See the crash, watch the world spin. I'ma smoke the stash, I'm a bad bitch. You're a bitch, that's bad, I'm a habit. You're a random girl in the bathroom, snoring on the windowsill. You work in fashion, you got time to kill. It's a weekend, but you feel weaker still. Watch them clapping, it's another show. Watch them glisten like the underwater gales are leaking. You in the mosh pit swirling, you geeking. It's another world. If a man is a man, if a man is a man, if a man is a man, then a woman is a god. God.
get up now. It's time to move, you look sluggish. You gotta make a bruise, I know your name now. You try to keep you cool, but a moment's past your momentum stills. In the back of the line at the club, on your block with no friends, just a phone at your ear. Try to make it seem like someone cares about you still, and that someone's really real. You're in the club now, dark room perfume, you're in love now. With being you, well you move so gracefully like glass. Yeah, your feet can't really dance. If a man.
Feel the rhythm. Feel your soul.